12e épisode. L'hallucinante photographie. Chapitre 1er. Un misanthrope convaincu. Un des 40 ascenseurs qui desservent les 3000 chambres du Gigantic Hotel, State Street, à Chicago, venait de s'arrêter au 15e étage. Le noir, vêtu d'écarlate et galonné d'or, proposé au service de l'appareil, ouvrit les portes grillagées et une jeune fille vêtue de deuil s'élança impétueusement hors de la cage dorée. Pendant que l'élévateur continuait son ascension vers les étages supérieurs, un noir, non moins galonné que le premier, était accouru au devant de la visiteuse.
« Je voudrais voir Miss Elsie Godescal, » demanda-t-elle impatiemment. « Est-elle ici ?»«
Miss Godescal est chez elle, » répondit le noir avec la déférence d'un serviteur bien stylé. « Qui dois-je annoncer ?»«
Miss Gladys Barney. »
Le noir s'éclipsa. Miss Barney s'assit dans une bergère de la luxueuse antichambre dont la décoration, de pur style Louis XVI, eût été irréprochable sans l'éclat trop neuf des dorures trop abondantes et les tons un peu crus des tapisseries à personnages. Grande et mince, le nez aquilin, un peu trop accentué, la bouche un peu grande, Miss Gladys n'était pas précisément jolie, mais ses grands yeux bruns avaient une expression de douceur captivante. Son sourire était plein de franchise et son teint d'un éclat éblouissant, ses dents très blanches et bien rangées, ses lèvres très rouges, une abondante chevelure châtain foncé, lui conférait ce charme de fraîcheur et de santé qui est commun à beaucoup d'Américaines. En ce moment, elle était toute rose d'impatience.
« Quelle idée, songeait-elle, a eu Elsie de venir se loger dans un pareil caravansérail. Il y a un quart d'heure que je la cherche. »
Mais déjà le domestique noir était de retour. Silencieusement, il précéda la visiteuse jusqu'à un petit salon dont il lui ouvrit la porte. Miss Elsie, qui prenait le thé en compagnie de deux gentlemen d'allure impeccable, avait couru à la rencontre de son amie. Les deux jeunes filles s'embrassèrent affectueusement.
« Que je suis heureuse de te voir !» s'écria Elsie. « Nous allons tâcher de t'être utiles. Nous sommes venus exprès pour cela. Mais avant tout, il faut en finir avec les présentations. Monsieur Todd Marvel, mon fiancé, que tu as dû voir chez mon tuteur, Monsieur Florider Kennel, un ami de mon fiancé. »
Gladys Barney s'inclina gracieusement, tout heureuse de se trouver en présence de ce fameux détective milliardaire dont les exploits étaient passés à l'état de légende.
« Sur ma demande, déclara Elsie avec un sourire d'orgueilleuse tendresse, mon cher Todd veut bien mettre ses talents à ta disposition. Il faudra que ton affaire soit bien embrouillée s'il n'arrive pas à la rendre claire et limpide comme du cristal.
« N'exagérons rien, » fit le détective modestement. « Il m'arrive, comme à tout le monde, d'entrer en lutte avec des adversaires plus forts et plus habiles que moi. Ainsi, ce fameux docteur Klaus Christian... »
Elsie pâlit et frissonna. « Je vous en prie, » murmura-t-elle. « Ne prononcez pas ce nom. Celui qui le porte m'inspire une horreur et une épouvante indicible. »
« Nous sommes débarrassés de lui, heureusement, » répondit Todd Marvel en prenant doucement dans ses mains celles de la jeune fille.
« Je vous promets que je n'en parlerai plus. »
Puis se tournant vers Gladys.
« Miss Barney, » ajouta-t-il, « si vous voulez bien m'exposer votre affaire dans le plus grand détail, je vous dirai ce que nous pouvons en espérer. »
Les faits en eux-mêmes sont très simples. J'ai été dépouillé de plus de 2 millions de dollars. Et je ne puis rien contre mes voleurs.
En êtes-vous bien sûr?
Vous allez en juger. Je suis l'unique héritière de ma tante, Elsbeth Barney, décédée il y a 2 mois, et qui, sans être milliardaire, possédait une des grosses fortunes de Chicago. Parmi les valeurs énumérées dans le testament, se trouvent 2 milliards de dollars d'actions des puits pétrolifères du Wyoming, de la société Jack Randall.
Excellente valeur, interrompit le milliardaire. Elles ont atteint ces jours derniers un cours très élevé.
Ces actions, reprit Gladys Barney, étaient déposées chez Jack Randall, comme l'attestait un certificat en bonne forme, portant les numéros des titres trouvés par moi dans le coffre-fort de ma tante, et remontant à 2 ans. Je me suis rendue aux établissements Randall, avec mon certificat, et là j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre que ma tante avait vendu ses actions 1 mois avant son décès. On m'a mis sous les yeux des reçus signés d'elle et parfaitement en règle.
Et vous croyez que ces reçus sont faux et que Randall s'est approprié les actions?
J'en suis convaincue, mais je ne puis en apporter aucune preuve matérielle.
Ma tante Elspeth était une personne très sérieuse et très ordonnée. Elle gérait elle-même sa fortune. Elle était absolument incapable de porter sur son testament des valeurs qui ne lui appartenaient plus.
Todd Marvel et Floridor échangèrent un coup d'œil significatif.
« Voilà qui est étrange, » déclara le milliardaire.
« À quelle date a été écrit le testament ?»«
15 jours environ avant la mort de ma tante, alors qu'elle était en pleine possession de toutes ses facultés intellectuelles, et par conséquent 15 jours après la prétendue vente des actions. »
Todd Marvel réfléchit quelques instants.
« Dites-moi maintenant, » fit-il, « quelle a été l'attitude de Jack Randall ? Qu'a-t-il répondu à vos réclamations ?»«
Je n'ai pas vu Jack Randall lui-même. Il est impossible de le voir. Mais ceci est un autre mystère sur lequel je reviendrai. Son homme de confiance, M. Harry Morlin, s'est montré plein de courtoisie. Il a même consenti à confier à un homme d'affaires, qui les a fait expertiser, les reçus signés de ma tante. Et les experts ont reconnu la parfaite authenticité de la signature.
De sorte que tout le monde vous a donné tort.
Absolument.
Vous n'allez pas en faire autant, j'espère, ajouta Gladys en souriant.
Rassurez-vous, cette affaire m'intéresse passionnément. Laissez-moi maintenant vous poser quelques questions. Vous disiez à l'instant qu'il était impossible de voir M. Randall.
C'est du moins très difficile. M. Randall est, paraît-il, atteint d'une noire misanthropie. Il vit seul dans son magnifique hôtel situé sur les bords du lac Michigan. Jamais il ne sort, jamais il ne reçoit. Il a rompu avec toutes ses anciennes relations. Cette attitude qu'il a prise, assez récemment d'ailleurs, me contrarie d'autant plus que ma feu tante le considérait comme un homme parfaitement intègre et le mettait en nombre de ses amis les meilleurs et les plus sûrs. C'est à n'y rien comprendre.
Parbleu, interrompit Floridor, il est évident pour moi que M. Randall est séquestré.
Miss Barney protesta avec une certaine vivacité.
Mais non, fit-elle, il n'est pas séquestré. On le voit difficilement, il est vrai, mais on le voit. Par exemple, on n'en est pas plus avancé. Il ne demeure jamais plus de quelques minutes avec ses visiteurs, et il leur tient toujours à peu près le même langage. Si vous venez pour affaire, adressez-vous à M. Harry Morlin. Si c'est pour toute autre raison, il m'est impossible de vous entendre. Le plus grand service que vous puissiez me rendre est de respecter ma solitude.
Une dernière question, fit le milliardaire. Quel genre d'homme est-ce que ce Harry Morlin?
Quoiqu'en sa qualité d'anglo-indien, il a le teint légèrement cuivré. C'est à tous égards un parfait gentleman, de manière très distinguée. Très intelligent, très actif, il est estimé dans le monde des affaires. Sous son impulsion, la société des puits pétrolifères du Wyoming, que dirait Jack Randall, est entrée dans une ère de prospérité inouïe.
« Cela suffit, » s'écria Todd Marvel en se levant précipitamment. « Je vais à l'instant même rendre visite à M. Jack Randall. Il faut à tout prix que j'aie la clé de cet irritant mystère. »
« Je vous souhaite de réussir, » fit Miss Barney sans beaucoup de conviction.
« Il réussira, j'en suis sûre, » déclara Elsie avec enthousiasme.
« Mon cher Todd a résolu avec bonheur des problèmes autrement épineux. »«
Au revoir, chère Elsie, » murmura le milliardaire en effleurant d'un respectueux baiser le front de sa fiancée.
« Au revoir, Miss Gladys. Je vous retrouverai ici dans une heure, et si je n'ai pas remporté une victoire complète, j'espère du moins ne pas revenir tout à fait bredouille. »«
Dois-je vous accompagner ?» demanda Floridor.
« Bien entendu. N'oublie ni ton Browning ni ton appareil photographique.
Quel ?
Le silencieux, celui dont le déclic ne fait pas de bruit. J'ai idée que cet appareil ne nous sera pas inutile. »
Après avoir louvoyé pendant longtemps dans la cohue des véhicules de tout genre qui encombraient State Street et les rues avoisinantes, la Rolls-Royce de Todd Marvel, pilotée par Floridor, s'engagea dans Michigan Avenue, une luxueuse voie ombragée par de beaux arbres et bordé d'un côté par le lac, de l'autre par de véritables palais de style italien, mauresque, anglais ou espagnol, mais où le gothique dominait. Quelques minutes plus tard, la voiture stoppait en face d'une haute construction à tourelles et à créneaux, dont les murailles de granit étaient percées d'étroites fenêtres ogivales. C'était la demeure du milliardaire Jack Randall. Après avoir franchi une grille de fer forgé et doré, les deux visiteurs furent introduits dans un salon d'attente sévèrement meublé de bahuts d'ébène et de raides fauteuils espagnols. Un lustre flamand aux lourdes boucles de cuivre pendait de la voûte. Dès le seuil de la pièce, on se sentait étreint par une inexplicable sensation de tristesse et de solennité.
une haute verrière d'une tonalité jaune et violette, représentant le supplice de Saint-Barthélemy, écorché vif, éclairait tous les objets d'une lumière fiévreuse et mélancolique. Mais l'attention de Todd Marvaux fut surtout retenue par un grand portrait d'homme, en pied, de grandeur nature, qui se détachait dans son cadre d'ébène, avec un puissant relief, une saisissante impression de vie. Il représentait un homme à la barbe grisonnante, entièrement vêtu de noir, énergique et grave. Sa physionomie portait la trace de fatigues et de chagrins sans nombre, mais on y lisait aussi un entêtement et une audace formidables. Sans s'en rendre compte, Todd Marvaux se sentit puissamment attiré par ce portrait. Il ne pouvait en détacher ses regards. « Cet homme a dû soutenir de terribles luttes contre la mauvaise chance, » dit-il à Floridor. « Si c'est, comme je le suppose, Jack Randall que représente ce tableau, vous êtes tout à fait dans le vrai. Il paraît qu'il a fait fortune comme simple prospecteur au Mexique. » Cette conversation fut interrompue par le retour du domestique. « Monsieur Randall regrette de ne pouvoir vous recevoir, » déclara-t-il, « mais si vous désirez voir Monsieur Harry Morlin, il sera heureux de votre visite. » « C'est bien, » dit le milliardaire qui s'attendait à cette réponse. « Je verrai Monsieur Harry Morlin. » L'homme de confiance de Jack Randall ne tarda pas à paraître et Todd Marvaux dut reconnaître que Miss Barney n'avait nullement exagéré en le représentant comme un gentleman d'une rare distinction de manière. Indien par sa mère, anglais par son père, Harry Morlin réunissait en lui les qualités des deux races. La volonté tenace de l'anglo-saxon, l'intuitive pénétration et la finesse de l'hindou, l'obstination alliée à la souplesse du diplomate. Âgé d'environ 35 ans, il était grand et robuste, avec une aisance et une franchise d'allure qui le rendaient tout de suite sympathique. De l'anglais, il tenait ses poings solides, ses larges épaules, son front têtu, martelé de bosses volontaires. Mais la régularité presque féminine de ses traits, son teint bronzé, ses yeux noirs d'un éclat presque inquiétant, décelait l'oriental. Après avoir salué les visiteurs avec une courtoisie parfaite, il aborda sans préambule le sujet qui les intéressait. « Vous vouliez voir Monsieur Jack Randall ?» dit-il d'une voix singulièrement musicale et bien timbrée. « Ce n'est malheureusement pas possible aujourd'hui. Il est d'une santé chancelante et, en ce moment surtout, extrêmement fatigué. Puis vous n'ignorez sans doute pas qu'il a horreur de toute espèce de visite. Il est devenu peu à peu véritablement misanthrope et je vous surprendrai peut-être en vous apprenant que c'est à peine s'il consent à me recevoir moi-même pendant le temps nécessaire au règlement des affaires les plus urgentes. » « On m'avait déjà dit cela, en effet, » répondit Tom Marvel avec beaucoup de calme. « Maintenant, » reprit M. Harry Morlin avec un cordial sourire, « s'il s'agit d'une affaire d'argent, quelle qu'elle soit, j'ai plein pouvoir pour traiter. Je serai personnellement heureux d'être agréable à M. Tom Marvel, que je n'avais pas le plaisir de connaître, mais dont j'ai souvent entendu vanter les qualités d'homme d'affaires et de détective. » « Voici de quoi il s'agit, » répondit Todd Marvaux, sur le même ton de politesse et de cordialité que son interlocuteur. « Je viens au nom de Miss Gladys Barney, qui est une amie d'enfance de ma fiancée. » Une ombre de contrariété passa sur les traits de l'anglo-indien. « Vraiment, » répliqua-t-il avec une nuance de lassitude et d'énervement. « Je ne comprends rien à la conduite de Miss Barney. Tous les jours, elle m'envoie de nouveaux mandataires, qui tous me répètent la même histoire. Ce n'est pas ma faute si la tante Miss Gladys a vendu ses actions au lieu de les garder pour son héritière. J'ai même consenti à laisser vérifier les reçus par des experts. Je crois qu'on ne peut pas pousser la complaisance plus loin. Beaucoup à ma place auraient envoyé promener Miss Barney en lui disant de s'adresser à la justice, si elle se croit réellement lésée. « Je suis au courant de tout cela, » répondit le milliardaire, sans se laisser démonter par cette attaque directe. « Somme toute, que voulez-vous ? Une nouvelle expertise des reçus, signée par Madame Elspeth Barney ? Je veux bien y consentir pour vous être agréable, quoique vraiment... »« Non, » déclara Todd Marvel avec fermeté. « Je désire voir Monsieur Jack Randall. Il était l'ami et le conseiller de Madame Elspeth, et il suffirait peut-être d'un mot de lui pour dissiper tout ce mystère. » Au grand étonnement du milliardaire, M. Harry Morlin ne s'insurgea pas contre la demande qui lui était faite. « Écoutez, » dit-il du ton le plus conciliant, « j'ai à cœur de vous faire plaisir et je tiens aussi à en finir une fois pour toutes avec les réclamations injustifiées de Miss Gladys.
Je vais tâcher de décider, Monsieur Jack Randall, à vous recevoir.
Je suis très sensible à l'obligeance de votre procédé, répondit Todd Marvel, à demi convaincu. Il est possible, après tout, que Miss Barney se soit trompée.
Et voulez-vous m'attendre quelques instants? Je vais user de persuasion pour faire consentir Monsieur Randall à une entrevue.
Harry Mullen disparut par une porte latérale. Todd Marvel et le Canadien demeurèrent seuls.
« Je ne sais pas trop que penser, » murmura le milliardaire. « Quelle est ton impression ?»«
Je commence à craindre que Miss Barney ne soit dans son tort. Je suis bien étonné si Miss Morland, qui me paraît un aimable gentleman, n'est pas d'une parfaite loyauté. » »«
Ne te hâte pas de conclure, » répliqua le milliardaire assez perplexe. « Quoi qu'il en soit, si M. Jack Randall nous reçoit, arrange-toi de façon à prendre de lui un ou deux clichés, et cela, naturellement, sans être vu désintéressé.
Je crois pouvoir y réussir. »
Le milliardaire mit un doigt sur ses lèvres. Harry Mullen revenait, à la physionomie souriante.
« Soyez satisfait, » fit-il. « J'ai pu convaincre mon directeur plus facilement que je ne le pensais. Et il sera ici dans un instant. Et tenez, le voilà. »
Jack Randall, très reconnaissable grâce à la frappante ressemblance du portrait à huile, venait d'entrer dans la pièce par la porte du fond. Il salua d'un léger signe de tête les deux visiteurs.
« Sirs, je connais le but de votre démarche, » fit-il d'une voix assourdie et tremblotante. « Je n'ai rien à ajouter à ce que vous a dit M. Harry Mullen. Miss Barney est dans l'erreur la plus complète. Vous avez désiré me voir, vous devez être satisfait. Excusez-moi de ne pas rester plus longtemps. J'ai pour habitude de ne jamais entrer en conversation suivie avec qui que ce soit. » C'est une règle formelle que je me suis imposée et dont je ne me départ jamais. »
Avant que Todd Marvel fût revenu de sa surprise, Jack Randall avait salué légèrement de la même façon qu'en entrant et s'était retiré. Il y eut une minute d'un silence embarrassant. Todd Marvel et Floridor avaient l'impression qu'en dépit de l'évidence apparente des faits, ils se heurtaient à un étrange mystère.
« J'espère, » dit enfin Harry Mullen, « que vous ne conservez plus aucun doute. Monsieur Jack Randall a été parfaitement explicite. »«
C'est évident, » balbutia le milliardaire machinalement.
« S'il n'est pas entré dans des détails plus circonstanciés, c'est qu'il a horreur des explications. Les rares entrevues qu'il accorde ne sont jamais plus longues. »
Todd Marvel avait eu le temps de se ressaisir. Ce fut très aimablement qu'il répondit.
« Il me reste maintenant, Monsieur Morland, à vous remercier de votre obligeance, en vous priant d'excuser notre visite importune.
J'espère que vous ferez comprendre à Miss Barney qu'elle a tort de s'obstiner dans des prétentions que rien ne justifie.
Je n'y manquerai pas.
Si j'avais un conseil à lui donner, ce serait de faire certaines recherches dans les banques. Il se peut fort bien que la défunte ait déposé les $2 millions dans un établissement financier et qu'elle ait égaré le reçu.
Non, répondit le milliardaire d'un ton très calme. Car le testament mentionne les actions avec leurs numéros. Je croirais plutôt à une de ces crises d'amnésie si fréquentes chez les malades. Madame Helspeth a oublié qu'elle avait vendu ses titres.
Ma foi, je crois que vous avez raison. C'est la seule explication possible.
Monsieur Harry Mullen insista pour reconduire ses visiteurs jusqu'à leur auto et ne se retira qu'après avoir échangé avec eux de vigoureux shake hands.
Pendant qu'il franchissait en quatrième vitesse, la distance qui sépare la Michigan Avenue du Gigantic Hotel, Todd Marvel et Floridor n'échangèrent pas une parole. Tous deux demeuraient plongés dans leurs réflexions.
« J'ai pu prendre deux clichés, » dit seulement le Canadien.
« C'est bien. Si tu rentrais, tu iras au laboratoire photographique de l'hôtel en faire tirer quelques épreuves, que tu m'apporteras immédiatement. »
Le premier soin du milliardaire fut de se rendre au petit salon de thé du 15e étage où l'attendaient Gladys et Elsie, et de les mettre au courant de sa visite. Elles l'écoutèrent sans l'interrompre, mais à mesure qu'il avançait dans son récit, Miss Barney donnait des signes de nervosité et d'impatience.
« Alors, » dit-elle non sans une certaine amertume, « vous aussi, vous allez donner raison à Miss Poliateur. On dira bientôt que c'est moi qui ai tous les torts. »
« Non, » répondit-il gravement, « je suis sûr de la légitimité de vos réclamations. Il y a dans toute cette affaire un mystère que je veux arriver à percer, mais je crains que ce ne soit pas sans peine.
« Avez-vous quelque indice, si faible soit-il ?» demanda Miss Elsie. Pas le moindre jusqu'ici. J'avoue que toutes les vraisemblances sont du côté de nos adversaires. Tout ce que j'ai pu, c'est de faire prendre par Floridor une photographie de M. Jack Randall. À quoi cela nous avancera-t-il? Peut-être à rien, mais cela peut avoir aussi une grande importance. Si Jack Randall est mort ou séquestré, nous le découvrirons tout de suite. Je sais où me procurer d'anciennes photographies de lui. Nous ferons la comparaison après agrandissement et mensuration anthropométrique. Mais voici précisément Floridor qui revient avec des épreuves. Le Canadien pénétra en coup de vent dans le petit salon. Il paraissait absolument bouleversé, hors de lui. « Que t'arrive-t-il ? » demanda Todd Morveau. « Par exemple !» s'écria Floridor, dont les traits exprimaient la stupeur la plus profonde. « Je n'aurais jamais soupçonné une chose pareille. Ce qui m'arrive est extraordinaire. Je me demande si je ne deviens pas fou. »« Qu'y a-t-il donc ?» interrogea impatiemment le milliardaire. « Les clichés ?» « Eh bien, sur les clichés, il n'y a rien du tout, vous m'entendez? Rien, pas la moindre trace de M. Jack Randall. »« Tu déraisonnes !» s'écria Todd Marvel en s'emparant avec vivacité des épreuves que Floridor tenait à la main. À leur tour, le milliardaire et les deux jeunes filles jetèrent un cri de surprise. « C'est à n'y pas croire !» s'exclama Todd Marvel, littéralement abasourdi. « Sir Randall n'est pourtant pas un spectre, un pur esprit. » Je l'ai vu de mes yeux pendant que Floridor le photographiait. Je l'ai entendu parler, et il n'y a aucun vestige de sa présence sur le cliché. Je ne sais comment vous expliquer ce phénomène déconcertant, déclara Miss Gladys, mais il me donne raison. Tâchons de réfléchir avec sang-froid, répondit Todd Marvel. Je ne crois pas, vous le supposez bien, que nous nous trouvions en présence d'un fait surnaturel. Nous avons tous deux vu et entendu M. Randall dans le décor même que reproduit la photographie. Il y a certainement à ce mystère une explication logique et scientifique. C'est cette explication qu'il s'agit de trouver. « Je n'ai bien découvert une, » déclara Floridor. « Je vous la donne pour ce qu'elle vaut. J'ai vu dans certains théâtres des apparitions produites à ce qu'on m'a dit à l'aide d'une glace sans teint placée dans les sous-sols et puissamment éclairée. » Todd Marvel secoua la tête. « Ta solution est mauvaise, » fit-il. Il ne peut être question ici de ces fantômes que font apparaître les prestidigitateurs. Ces illusions ne sont possibles que sur une scène, placée assez loin du spectateur et plongée dans une obscurité complète. Nous n'étions qu'à quelques pas de M. Randall. Si ça avait été un spectre, comme tu te le figures, nous aurions vu tout le détail de la machinerie. Enfin, les apparitions de ce genre ne parlent pas. D'ailleurs, ajouta Miss Halsey, il faisait grand jour. L'hypothèse de M. Floridor n'est donc pas admissible. Pendant une discussion qui dura près de 2 heures, on chercha vainement à résoudre cette troublante énigme. On dut y renoncer. Pour la première fois peut-être, Todd Marvel se trouvait en présence d'un mystère véritablement impénétrable. Chapitre 2. Une énigme expliquée. Pendant 3 jours, Miss Halsey et son amie ne virent paraître à la salle à manger du Gigantic Hotel, qui leur était exclusivement réservée, ni Todd Marvel, ni le Canadien. Bien que le milliardaire eût prévenu sa fiancée qu'il ferait une courte absence, Halsey, d'un tempérament très impressionnable, commençait à être inquiète. Gladys, au contraire, était pleine d'espoir. « Je suis sûre, chère amie, répétait-elle, que ton Todd Marvel et son collaborateur sont en train de faire d'excellentes besognes. « Monsieur Marvel est si brave, si téméraire même, répondait-elle si, que je tremble toujours pour lui. Je lui souhaiterais un peu plus de prudence. » « Rassurez-vous, » dit tout à coup Todd Marvel lui-même, en pénétrant brusquement dans le salon de thé où avait lieu cette conversation. « Non seulement je n'ai couru aucun danger, mais j'ai découvert beaucoup plus aisément que je ne le pensais l'explication de la mystérieuse photographie. « Comment avez-vous pu arriver à un pareil résultat ?» demanda Miss Halsey, émerveillée. « De la façon la plus simple. Je me suis souvenue qu'Harry Morland était d'origine indienne, de là à supposer que j'avais été victime d'un des tours de passe-passe familiers aux jongleurs de son pays, il n'y avait qu'un pas. Au consulat d'Angleterre, un attaché qui a longtemps habité Calcutta m'a fourni les précisions les plus complètes sur ces sortes de miracles. « Donnez l'explication !» s'écria Miss Gladys, le visage rose d'impatience et de curiosité. Je vais prendre un exemple pour me faire mieux comprendre. Vous avez sans doute lu, comme tout le monde,
dans les relations de voyage, le récit des prodiges opérés par les fakirs, yogis ou derviches, appelez-les comme il vous plaira. » Les deux jeunes filles, attentives, firent un signe de tête affirmatif. « Ces prodiges, continua Todd Marvel en affectant un certain ton doctoral, peuvent se diviser en trois classes. Ceux qui sont du domaine de la simple prestidigitation, et sur lesquels je n'insisterai pas, ceux qui sont de véritables miracles que la science moderne n'a pu ni reproduire, ni expliquer de façon satisfaisante, tels que le fakir enterré vivant et ressuscité au bout de 3 semaines. Enfin, ceux où la suggestion hypnotique joue le principal rôle.
« Bravo !» interrompit Elsie en applaudissant avec malice. « Vous parlez comme un professeur du collège d'Harvard. »
Todd Marvel continua sans se déconcerter. « L'apparition, c'est à dessein que je me sers de ce mot, de M. Jack Randall, appartient à ce dernier ordre de fait. Voici un prodige, ou si vous voulez, un tour, que réalisent couramment les fakirs hindous. Le thaumaturge, de préférence par un temps couvert, emmène avec lui 2 personnes de bonne foi, jamais plus de 2, dans un endroit solitaire en pleine campagne. Il tire d'un panier une longue corde qu'il lance en l'air, et c'est là où le miracle commence. La corde ne retombe pas et demeure verticale au sol, sans que rien la soutienne. Alors, paraît un enfant de 8 à 10 ans, qui se met en devoir d'escalader la corde. Celle-ci s'allonge à mesure que l'enfant monte. Et finalement, la corde et l'enfant disparaissent tout à fait et le spectateur se retire, stupéfait, en se demandant ce qu'ils ont pu devenir.
« Je me le demande également, » murmura Gladys, très intéressée par ce récit.
Cet escamotage inexplicable surexcita au plus haut point la curiosité de savants de tous les pays, et personne n'avait pu deviner par quels moyens on parvenait à la produire, quand un officier anglais eut l'idée de photographier la corde et l'enfant. Ni l'un ni l'autre n'impressionnèrent la plaque. Il se produisit exactement la même chose lorsque Floridor a voulu photographier M. Jack Randall.
« Pourquoi ?» demandèrent d'une même voix les 2 jeunes filles stupéfaites.
« Pour la bonne raison que le Jack Randall que j'ai cru voir n'existait pas, pas plus que n'existe l'enfant que fait apparaître le jongleur. » L'aimable gentleman Harry Mullen, un redoutable bandit en réalité, nous a suggéré l'image de Jack Randall, et il nous a ordonné de le voir, et nous l'avons vu. Elsie et Gladys demeuraient muettes de stupeur. Remarquez, continua le milliardaire, que de même que les fakirs, Harry Mullen n'a jamais admis plus de 2 personnes à la fois à visiter le prétendu misanthrope. Le portrait en pied placé dans le salon d'attente, et que l'on est forcé de regarder, pendant le temps toujours assez long, que le domestique met à donner une réponse à son utilité dans cette jonglerie. Il facilite le travail mystérieux du cerveau soumis à la suggestion. Il évite à l'hypnotiseur un pénible travail de création du personnage à évoquer. Le Jack Randall, que je me suis imaginé voir, avait exactement les mêmes traits et était vêtu de la même façon que celui du tableau.
« Tout cela ne tient pas debout !» s'écria brusquement Miss Barney.
Si Jack Randall n'était qu'un spectre, une vision suggérée par Harry Mullen, il n'aurait pas pu vous adresser la parole.
J'avais prévu cette objection, répliqua Todd Marvel, sans se démonter.
Les quelques phrases que j'ai entendues ont été prononcées par l'anglo-indien qui, comme beaucoup de ses compatriotes, est un ventriloque ou, pour être plus exact, un laryngiloque de première force. Je m'en serais aperçu du premier coup si j'avais fait plus attention à cette voix assourdie et chevrotante qui donnait l'impression de venir de très loin. Cela vous explique que l'imaginaire Jack Randall, sous prétexte de misanthropie, se montre si peu loquace et ne se risque jamais dans une conversation suivie.
« Je n'ai rien à répondre, » murmura Gladys toute confuse. « Mais vraiment, quelle incroyable fantasmagorie! Cet Harry Mullen a quelque chose de surnaturel, et je me repens d'être entrée en lutte avec lui. »
Ce n'est pas le moment de reculer. Maintenant que nous sommes au courant des procédés de ce bandit de grande envergure, la partie est déjà à moitié gagnée. Il faudra bien qu'il vous rende vos 2 millions de dollars et qu'il dise ce qu'il a fait de M. Jack Randall.
Croyez-vous qu'il l'ait assassiné?
C'est malheureusement très vraisemblable. Espérons qu'il se sera contenté de le séquestrer. D'ailleurs, je vais, d'ici peu, être fixé sur ce point. Depuis que vous ne m'avez vu, ni Floridor ni moi ne sommes demeurés inactifs. J'ai déjà acquis une certitude. C'est que Jack Randall ne se trouve pas dans l'hôtel de Michigan Avenue. Ce n'est pas sans mal, d'ailleurs,
que je suis arrivée à ce résultat. Les domestiques sont tous des hindous. Ils sont généreusement rétribués, très peu d'entre eux parlent l'anglais. Ma tâche était d'autant plus difficile que je risquais d'éveiller les soupçons de ceux auxquels je m'adressais et de voir mes tentatives signalées à Harry Morley. Je découvris heureusement qu'un des hindous, un cuisinier, fumeur d'opium invétéré, souffrait beaucoup de ne pouvoir s'en procurer aussi souvent qu'il l'eût voulu. Grâce au cadeau que je lui fis de quelques pains d'excellent opium de Smian, nous devînmes les meilleurs amis du monde. Je pus ainsi pénétrer subrepticement dans l'hôtel et le visiter de la cave au grenier. J'ai constaté que l'appartement autrefois habité par Jack Randall était vide. Personne ne l'avait vu depuis un an, sauf les rares visiteurs auxquels Harry Morland le fait apparaître, lorsqu'il s'y croit forcé. « Il faut prévenir tout de suite la police !» s'écria Gladys, très émue. « Je n'en ferai rien, » répondit Todd Marvel avec calme. « Ce serait tout compromettre. » Notre adversaire a su se ménager dans le clan des hauts fonctionnaires de la police de puissantes amitiés, et qui sait, peut-être des complicités. L'enquête que j'ai commencée, et qui, je l'avoue, m'intéresse passionnément, n'a de chance d'aboutir qu'à condition d'être poursuivie dans le plus grand secret. La sonnerie du téléphone interrompit ses explications. Le milliardaire saisit le récepteur, puis le raccrocha presque aussitôt. « C'est Floridor qui me demande, » dit-il en se levant. « Veuillez m'excuser, Mrs., mais je suis obligé de vous quitter. »« Est-il indiscret ?» demanda curieusement Elsie, « de vous demander ce que devient dans cette ténébreuse affaire votre brave Canadien ?»«
C'est très indiscret, » répondit en riant le milliardaire, « mais je vais pour une fois violer le secret professionnel. Depuis 3 jours, Floridor est employé des postes. »
Laissant les deux jeunes filles fort étonnées de cette révélation, Todd Marvel courut à l'ascenseur et se hâta de regagner le petit appartement qu'il occupait au 16e étage et qu'il payait à raison de $500 par jour. Floridor l'y attendait avec impatience.
« J'ai trié minutieusement tout le courrier d'Harry Morlin, » déclara-t-il. « Il n'y avait que des lettres d'affaires tapées à la machine et des prospectus sans intérêt, sauf, comme hier et avant-hier, une enveloppe cachetée à la CIA et timbrée de Harrisburg dans l'état de Wyoming. Tu l'as ?
La voici. Mais nous n'avons pas plus d'un quart d'heure devant nous. Il faut que cette lettre arrive à son destinataire en même temps que les autres.
Tout à l'heure, je l'ai portée moi-même à Michigan Avenue et je l'achèterai dans la boîte de l'hôtel. »
Todd Marvel alla pousser le verrou, puis s'installant en face de son bureau, il examina soigneusement l'enveloppe, scellée d'un cachet de cire verte et affranchie avec 4 timbres d'enceinte. Il remarqua tout de suite qu'en la fermant, on avait laissé subsister un léger interstice à l'un des angles.
« Il n'y aura pas besoin d'enlever le cachet, » murmura-t-il.
Il prit dans un tiroir un gros fil de fer, terminé à une de ses extrémités par un crochet, et le glissa par l'entrebâillement, puis, en tournant doucement, il arriva à enrouler la lettre autour du fil de fer en lui donnant le volume d'un crayon ordinaire. Il put ainsi l'extraire de l'enveloppe sans avoir brisé le cachet et sans avoir endommagé la bande de colle de la fermeture. Le milliardaire lut d'un coup d'œil la lettre qui ne renfermait que quelques lignes et la rejeta presque aussitôt avec dépit.
« Rien d'intéressant, » grommela-t-il. « C'est, » rajouta Floridor en lisant à son tour, « à peu près le même texte que dans la lettre d'hier et d'avant-hier. Il y a question de moutons de Dishley, de porc de Yorkshire, de bœufs de Durham, de taureaux, de races Paul Angus et Royal Air Force. Somme toute, ce qu'écrit un fermier à un propriétaire de ranch. »
« Pourtant, » murmura le milliardaire absorbé dans de profondes réflexions, « je ne sais quel instinct me dit que cette lettre est plus importante qu'elle n'en a l'air. D'abord, la signature « Benazi » est celle anglicisée d'un oriental arabe ou hindou, par conséquent d'un compatriote, d'un complice d'Harry Morlin, et dont le nom doit s'écrire en réalité « Ben Aziz ». Puis un fermier n'écrit pas tous les jours à son propriétaire, sans avoir rien d'intéressant à lui annoncer, sans qu'il y ait à cela une raison secrète. Je suis persuadée que c'est à Harrisburg que nous retrouvons Jack Randall, si toutefois il est encore vivant. Peut-être s'est-on servi d'une arme sympathique et qu'en approchant le papier de la flamme... Essayons.
Le Canadien alluma une lampe à alcool et fit consciencieusement chauffer toute la surface de la feuille, mais aucun caractère n'apparut.
Ce n'est pas comme cela que nous trouverons quelque chose, murmura Todd Marvel avec impatience. « Remets cette lettre à sa place. »
Floridor enroula la feuille autour du fil de fer et fort adroitement la fit rentrer dans l'enveloppe en usant du même procédé qui avait servi à l'en faire sortir. Il avait à peine terminé cette opération délicate que Tom Marvel lui arrachait la lettre des mains.
« Les trois lettres que nous avons ouvertes, déclara-t-il triomphalement, sont affranchies avec des timbres divisionnaires qui couvrent un bon tiers de la surface de l'enveloppe. Il doit y avoir une raison à cela. Et cette raison, je viens de la trouver. Il y a quelque chose d'écrit sous les timbres. »
Le Canadien était enthousiasmé. Il s'élança vers la pièce voisine et en revint avec une bouilloire de voyage qu'il remplit et plaça sur la lampe à alcool. Tod Marvel l'arrêta d'un geste.
« N'essayons pas de décoller les timbres avec la vapeur d'eau, expliqua-t-il. Nous ne serions pas capables de remettre les choses en état sans brouiller les caractères de l'écriture.
Si nous pouvions lire en regardant le papier en transparence,
il est trop épais.
Qu'allez-vous faire ?
Tant pis, il faut sacrifier l'enveloppe. Cours m'en chercher d'à peu près pareil à celle-ci. Rapporte aussi des timbres et un morceau de liège. »
Floridor ne fut absent que quelques minutes. Il avait trouvé dans l'hôtel même tout ce dont il avait besoin. Quand il revint, Tod Marvel, qui après réflexion en était revenu à la vapeur d'eau, avait terminé l'opération du décollage.
« Nous n'aurons pas besoin de refaire l'enveloppe, » dit-il gaiement. « L'écriture est intacte. Tu vois que je ne m'étais pas trompé. »
Floridor lut à la place qu'avait occupé les timbres cette seule phrase. « Faut-il faire venir un médecin ?»«
Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda le Canadien abasourdi.
« Comment tu ne comprends pas ? C'est pourtant parfaitement clair. Quand on a besoin d'un médecin, c'est qu'il y a un malade. Et ce malade ne peut être que Jack Randall, dont l'homme qui signe Benazi est certainement le geôlier. Y es-tu maintenant ?»«
Je vous admire !» fit naïvement le Canadien, dont la loyale physionomie reflétait l'émerveillement.
Les auteurs de cette séquestration, qui se rendent compte de la gravité de leur acte, ne se fient ni au télégraphe, ni au téléphone, ni au cachet de cire. Ils ont trouvé ce subterfuge d'une ruse tout orientale, écrire sous les timbres.
Ma foi, je suis content d'avoir deviné cela.
Qu'allons-nous faire ? Demanda Floridor à peine remis de sa surprise.
Notre plan est tout tracé. Une fois que tu auras porté à son adresse cette lettre, à laquelle je vais rendre en un tour de main son aspect primitif, il faut t'arranger de façon à intercepter la réponse qu'Harry Morland ne manquera pas d'y faire. Cette réponse, tu me la porteras. Ensuite, nous verrons.
Le Canadien ne revint qu'au bout de deux longues heures. Depuis trois jours, grâce à la recommandation de Tod Marvel, il était employé comme trieur dans un bureau de poste situé à proximité de Michigan Avenue. C'est de cette façon qu'il avait pu contrôler de très près la correspondance d'Harry Morgan.
Voici la réponse, dit-il triomphalement. Mais je commence à en avoir assez de trier les prospectus et les correspondances. C'est ennuyeux et fatigant à un diable.
« Rassure-toi, » répondit le milliardaire, « ta carrière de trieur a pris fin. Ce soir, nous prenons le train pour Harrisburg. » Tout en parlant, le milliardaire s'était mis en devoir d'enlever les quatre timbres qui affranchissaient la lettre adressée à M. Benazi au ranch du Poteau, Harrisburg, Wyoming. Les timbres, une fois décollés, il put lire cette phrase. « Pas de médecin, je viendrai. »«
grommela le Canadien. « Voilà qui est ennuyeux. »
Il s'agit d'arriver avant lui et de faire vite, voilà tout, répliqua le milliardaire, qui semblait ce soir-là d'excellente humeur. Donne-moi les enveloppes que tu as achetées tantôt. Elles vont nous servir. Je vais faire appel à mes talents de faussaire amateur. Après avoir gâché une demi-douzaine d'enveloppes, Tod Marvel refit l'adresse en imitant l'écriture d'Harry Morland avec une exactitude stupéfiante. Puis, à l'endroit qu'allait recouvrir les timbres, il écrivit « Mon médecin se présentera demain à 6 heures. »
« Et le médecin, bien entendu, ajouta-t-il, ce sera moi. Espérons que nous arriverons les premiers, c'est tout ce que je souhaite. »
Le malheureux Jack Randall doit être dans un état lamentable, pourvu que nous arrivions à temps. Les timbres, une fois collés, l'enveloppe paraissait absolument semblable à celle à laquelle elle avait été si habilement substituée. Floridor descendit porter lui-même la lettre au bureau de poste, installé dans l'hôtel même, puis il remonta aider Tod Marvel dans ses préparatifs de départ. Il avait été convenu que les deux détectives dîneraient ce soir-là en compagnie de Miss Elsie et de Miss Barney et prendraient ensuite un des trains de nuit, de façon à arriver de bonne heure à Harrisburg. Chapitre 3.
Le ranch du Poteau. L'État de Wyoming n'est pas seulement la région des gisements pétrolifères, c'est aussi, par excellence, un pays d'élevage. Sur ses hauts plateaux, dans ses vallées, poussent des herbes incomparables pour la nourriture et l'engraissement du bétail, entre autres l'alfalfa, ce foin naturel à tige bleue, qui surpasse en qualité les célèbres fourrages du Kentucky. À l'époque des Indiens, les bisons y pullulaient à l'état sauvage. Actuellement, on y trouve d'immenses troupeaux de bœufs et de moutons, bêtes de race, soigneusement sélectionnées par les ranchmen, qui toutes prennent le chemin de Chicago, où elles font prime sur les marchés. Propriétaire de 4 puits à pétrole, M. Jack Randall possédait aussi plusieurs fermes en pleine prospérité dans ce verdoyant pays de Wyoming, ombragé d'épaisses forêts, arrosé par des milliers de ruisseaux. Le ranch du Poteau, à 3 000 de Harrisburg, était une de ses propriétés. D'une étendue de 500 hectares, entièrement clos de haies et de palissades, il était cité dans les environs comme un établissement modèle. Floridor apprit tous ces détails en prenant un modeste lunch dans un restaurant situé près de la gare d'Harrisburg et fréquenté surtout par les cowboys et les marchands de bétail. D'après un plan concerté d'avance, Todd Marvel et le Canadien s'étaient séparés en descendant du train. Tous deux étaient partis, chacun dans une direction différente. Le milliardaire, auquel d'énormes lunettes jaunes à montures de cornes, un pardessus noir et un haut col rigide donnaient un aspect suffisamment médical, s'était dirigé vers l'hôtel de Washington, le meilleur de la ville, où il comptait se renseigner en attendant qu'il allât visiter le mystérieux Benghazi. Coiffé d'un feutre à large bord, chaussé de bottes à gros clous, Floridor, avec son pantalon renforcé de cuir et soutenu par une ceinture rouge, offrait à s'y méprendre le type très commun dans la région de ces robustes meneurs de viande employés à la conduite et à l'embarquement des troupeaux qui sont incessamment dirigés des prairies de l'Ouest vers les abattoirs de Chicago. Tout de suite, les clients du restaurant où il était en train d'absorber des sandwichs arrosés de thé le reconnurent pour un des leurs. Le hasard, en cette occasion, le servit mieux qu'il n'eût pu l'espérer. Un vieillard au visage tanné par le soleil, aux mains robustes couvertes de poils gris, l'interpella tout à coup. « Est-ce que tu travailles dans le pays, mon garçon ?» lui demanda-t-il. « Non, répondit le Canadien, je n'ai pas de place pour l'instant. J'étais employé aux étapes chez Amour, mais j'ai quitté. On n'est pas très bien payé, elle travaillait dur. Puis, à vrai dire, j'aime ma liberté. Quand on a vécu dans la prairie, on ne peut pas s'accoutumer aux villes. Tu adores le grand air, je vois ça, fit le vieillard en riant. Puis je n'aime pas comment on bête, répondit le Canadien sur le même ton. La franchise d'allure de Floridor avait décidément gagné les sympathies de son interlocuteur. Écoute un peu, mon garçon, reprit-il. Il y aurait peut-être moyen de s'arranger. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais très bien soigner les bêtes. Je connais les maladies des bœufs et des moutons, les pâtures, et je n'ai pas peur d'un cheval sauvage ou d'un taureau furieux quand il faut le marquer au fer rouge. En cela, le Canadien disait l'exacte vérité. Né dans une ferme des bords du lac de Winnipeg, il connaissait à fond la question de l'élevage. « Tu es mon homme, » reprit le vieillard. « Si 200 $ par mois te conviennent, c'est une affaire faite. Je ne chicanerai pas sur le prix, mais je ne veux pas entrer dans une petite exploitation. Je n'ai pas peur de la fatigue, mais il me faut de l'air et de l'espace. » « Tu en tiens décidément pour le grand air. Tu seras satisfait. Le ranch du Poteau est très vaste, avec des bois, des prairies et des rivières, et le travail n'est pas pénible. » En entendant nommer le ranch du Poteau, Floridor n'avait pu réprimer un tressaillement. Il allait donc se trouver du premier coup au cœur de la place ennemie. « C'est entendu, » dit-il vivement. « C'est vous le patron ?»« Non, mais c'est tout comme. Il y a 20 ans que je suis au ranch. J'ai la confiance de M. Benghazi, comme j'avais celle de M. Randall quand il s'occupait de sa propriété. Mais il y a plus d'un an que nous l'avons vu. Moi, je suis Ned Hopkins, un des plus anciens du pays. J'ai vu bâtir la ville d'Harrisburg. » Après une courte discussion dans laquelle Floridor se montra très arrangeant, il fut définitivement embauché et reçut séance tenante $50 à titre d'art, puis il prit place dans une charrette attelée d'un poney aux côtés de Hopkins et tous deux se dirigèrent vers le ranch du Poteau, où le Canadien devait entrer immédiatement en fonction. Sans avoir dans son enquête autant de chance que Floridor, Todd Marvel, de son côté, avait recueilli quelques renseignements sur l'homme auquel il allait avoir affaire. Malheureusement,
ses renseignements étaient assez vagues. Monsieur Benazi, que les uns disaient syrien, d'autres hindous d'origine, était âgé d'une quarantaine d'années et marié à une femme de sa race. Il n'y avait guère plus d'un an qu'il dirigeait l'exploitation, et il y réussissait d'ailleurs merveilleusement. Il sortait peu, ne fréquentait personne, mais passait pour très généreux et très bon envers son personnel. Il était estimé dans le pays, enfin, personne n'avait entendu dire qu'il eût avec lui un parent âgé ou malade. À l'hôtel Washington, le milliardaire s'était fait inscrire sous le nom du docteur Jarvis, voyageant pour ses affaires. Il venait de finir de déjeuner quand on lui remit à ce nom un billet que le Canadien avait jeté à la poste avant de quitter les environs de la gare. Il ne contenait que cette phrase « Tout va bien ». Floridor avait donc réussi à pénétrer dans le ranch. C'était là un premier succès. Maintenant, c'était au tour de Todd Morrow d'agir. Après avoir étudié son itinéraire sur une carte de la région, le milliardaire se mit en route sans prévenir personne de la visite qu'il allait faire. Comme le temps était beau, il résolut de faire la route à pied. De cette façon, il ne mettrait aucun voiturier dans sa confidence. Le paysage était très pittoresque et rappelait certains cantons de l'Écosse. Des bois de noirs sapins alternaient avec des collines couvertes de gazon. Dans les vallons arrosés par de nombreux petits ruisseaux, bordés de peupliers, de superbes troupeaux de bœufs et de moutons paissaient tranquillement. Les routes, empierrées avec un soin qu'on trouve rarement en Amérique, étaient séparées des prés et des champs par des haies bien entretenues et de solides palissades. Tout respirait l'ordre, le calme et la prospérité. Entourée d'un bois de chêne, la maison d'habitation du ranch était une spacieuse et confortable bâtisse à deux étages, avec une terrasse à l'italienne. Elle s'élevait à une certaine distance de la route, dont elle était séparée par une haute muraille couronnée de lierres d'Irlande à larges feuilles. Todd Morrow eut un moment l'illusion de se trouver dans quelque paisible campagne du vieux monde. Il sonna à une petite porte. Un domestique noir vint lui ouvrir et lui demanda avec beaucoup de politesse ce qu'il désirait. « Je voudrais parler à M. Benazi, » répondit le milliardaire. « Il est là, il vient justement de rentrer. Qui dois-je annoncer ? Dites-lui simplement que c'est le docteur. Il m'attend. Je vais le prévenir. Veuillez vous donner la peine d'entrer. » À la suite du noir, Todd Morrow traversa un parterre orné de corbeilles de fleurs que séparaient des allées sablées ratissées avec soin. Blanchie à la chaux, la façade de la maison disparaissait à moitié sous le feuillage des glycines et des clématites qui encadraient coquettement les fenêtres. Dans un coin, un jardinier à la physionomie débonnaire taillait des rosiers en sifflotant. De ce décor de luxe rustique, il émanait une atmosphère de sécurité, de bien-être et de gaieté tranquille, qui fit réfléchir le détective. Si je n'étais pas aussi sûr de mon fait, je croirais m'être trompé lourdement. Ce n'est certes pas là un de ces sinistres repères où l'on séquestre les gens. Il était entré dans un vestibule dallé de mosaïques et décoré de statues japonaises en bronze, de grande valeur, où il dut attendre quelques minutes. Le noir s'était éclipsé. Il revint bientôt la mine souriante. « Monsieur Benazi va vous recevoir, » annonça-t-il. « Je vais vous conduire. » S'effaçant respectueusement, il ouvrit la porte d'un ascenseur dissimulé dans un renfoncement du vestibule. Il fit monter Todd Morrow, à côté duquel il prit place. L'appareil s'arrêta au deuxième étage, sur un palier où donnaient plusieurs portes. Avec les mêmes façons obséquieuses, le noir en ouvrit une qui accédait à un petit salon richement meublé. « Monsieur Benazi sera ici dans une minute. » Todd Morrow, machinalement, entra, s'assit sur un divan et jeta un coup d'œil distrait sur l'ameublement. Il était, comme celui du vestibule, de style oriental. Les murs étaient tendus de soie écarlate, brodés de dragons d'or et de fleurs chimériques. Les meubles d'ébène, fleuris de nacre, étaient de style japonais. Et, dans chaque angle, des armures d'écailles aux masques hideux étaient dressées sur des piédestaux. Sur un guéridon, un plateau de laque du Coromandel supportait tout un attirail de fumeurs d'opium, la pipe, la lampe et les longues aiguilles d'argent. Près de la haute fenêtre qui éclairait la pièce, une bibliothèque renfermait une centaine de volumes anglais ou français richement reliés. Enfin, ce qu'il était assez étonnant de trouver dans un salon, un buffet vitré était rempli de vaisselle et un vaste lit divan montrait que la pièce pouvait, à volonté, se transformer en chambre à coucher.
Todd Marvel venait de se faire cette réflexion, lorsque tout à coup d'épais volets de fer, intérieurement mastacés, se rabattirent automatiquement et la pièce se trouva plongée dans les ténèbres. D'un mouvement instinctif, le détective se précipita vers la porte. Il la trouva fermée et au contact glacé du métal, il reconnut qu'elle était en fer ou en acier. Il était pris au piège dans lequel il était entré si imprudemment. Une minute s'écoula pendant laquelle il erra en tâtonnant au hasard, se cognant à tous les meubles. Puis, le lustre électrique du plafond s'alluma. Le détective aperçut alors, avec une indicible satisfaction, un appareil téléphonique placé bien en vue au centre de la pièce sur un guéridon. Si habiles que soient mes adversaires, se dit-il avec un sang-froid parfait, ils ont commis une lourde faute. Sans plus attendre, il décrocha le récepteur de l'appareil avec l'intention bien arrêtée d'aviser de sa bizarre situation le chef de la police d'Harrisburg. « Allô ?»«
Allô, Monsieur Todd Marvel ?» répondit dans l'appareil la voix d'Harry Morlun.
« Je suis Todd Marvel, » répondit le détective, en s'efforçant de dissimuler le dépit qu'il ressentait.
« Vous êtes vexé, » reprit Harry Morlun avec beaucoup de calme. « C'est aisé à deviner. Aussi, pourquoi vous êtes-vous mêlé de mes affaires ?»«
Maintenant, vous êtes à mon entière discrétion. »«
Ne croyez pas cela. J'ai des amis qui savent où je suis allé et qui agiront s'ils ne me voient pas revenir. »
Ne comptez pas sur vos amis. Votre Canadien, qui a cru faire un coup de maître en s'introduisant dans le ranch, n'y a réussi que parce que je l'ai bien voulu. C'est par mon ordre qu'on est allé le cueillir à la gare, dès son arrivée. Vous m'entendez bien? À l'heure qu'il est, bien qu'il ne s'en doute pas, il est comme vous entièrement en mon pouvoir.
Que voulez-vous de moi? Demanda Todd Marvel exaspéré.
Voici mes conditions. D'abord, vous signerez pour 3 millions de dollars de valeur à mon ordre. Il y a des traits en blanc sur le bureau. Vous êtes très riche. C'est là une somme insignifiante pour vous. Ce n'est pas tout. Vous prendrez l'engagement d'honneur de ne pas me dénoncer et de ne plus jamais vous mêler de ce qui me concerne. Je vous connais assez pour savoir que vous êtes homme à tenir votre parole, même donnée dans ces conditions.
Et si je refuse ? Bégaya le milliardaire, bouillant d'indignation.
Ce sera tant pis pour vous, et aussi pour 2 jeunes messieurs auxquels vous portez un grand intérêt. Cette menace porta à son comble l'exaspération de Todd Marvel.
« Je n'accepte pas vos conditions !» s'écria-t-il d'une voix tonnante. « Faites ce qu'il vous plaira. Je ne m'abaisserai jamais devant un bandit tel que vous. » « Il suffit. »
« Vous pourrez me téléphoner quand le jeûne et la solitude auront suffisamment modifié votre manière de voir. Je vous préviens seulement qu'alors, je serai devenu beaucoup plus exigeant. »
Harry Morlun avait raccroché le récepteur. Presque aussitôt, le lustre s'éteignit et Todd Marvel se trouva plongé dans d'épaisses ténèbres. Floridor avait du premier coup gagné la sympathie du vieil Hopkins. Celui-ci avait tenu à le mettre lui-même au courant de la besogne et avait reconnu avec plaisir qu'ils avaient tous deux les mêmes idées sur la façon de soigner le bétail. En parcourant à cheval toutes les parties de l'immense propriété, ils avaient longuement causé. C'est ainsi que Floridor fut mis au courant d'un fait qui lui donna fort à penser. « C'est curieux, » dit le vieillard qui ne pouvait deviner la portée de ses paroles. « On eût dit que M. Benazi pensait à moi quand il m'a envoyé à la gare pour embaucher le serviteur qui nous manquait. Il a déclaré qu'il voulait un Canadien, jeune, robuste, enfin tout ton portrait. C'est singulier, n'est-ce pas? Et le plus drôle, c'est que lorsqu'en rentrant je suis allé lui rendre compte de ma mission, il était déjà renseigné.
Quelqu'un nous aura entendu, elle lui aura dit, » murmura Floridor pris d'une vague inquiétude.
« Est-ce que j'aurais été déjà reconnu et signalé ?» se demanda-t-il.
En y réfléchissant, il pensa qu'il n'y avait là qu'un simple hasard et n'y songea plus. Il eut d'ailleurs d'autres préoccupations. Il avait espéré pouvoir s'échapper pour assister à l'arrivée de Todd Marvel afin de pouvoir lui prêter main forte au besoin. Mais Hopkins l'emmena à l'autre extrémité du domaine, très loin de la maison d'habitation. Ils ne rentrèrent qu'au coucher du soleil. Assez mécontent, le Canadien partagea pourtant de bon appétit le repas des hommes du ranch, servi dans une longue salle blanchie à la chaux, située au-dessous des greniers. Ce repas se composait uniquement d'une énorme tranche de bœuf rôti, entourée de pommes de terre bouillies et arrosée de petites bières. Ensuite, on montra au Canadien la chambre qui lui était destinée. une sorte de cellule au mur nu, mais éclairée à l'électricité et munie d'un appareil à douche.
« Je vais me coucher, » déclara Hopkins, qui tombait de sommeil. « Mais tu peux aller faire un tour en ville. Ici, liberté complète, pourvu qu'on ait fait sa besogne. »
Floridor ne se le fit pas dire deux fois et s'éclipsa. Mais au lieu de prendre le chemin d'Harrisburg, il glissa derrière les bâtiments d'exploitation et longea l'épaisse haie qui clôturait le bois de chêne derrière lequel s'élevait la maison d'habitation. Après avoir fait une centaine de pas, il profita d'une brèche pour franchir la haie et se trouva dans le bois. Grâce au clair de lune, il y voyait assez pour s'orienter. Il marcha droit à la maison dont la masse blanche lui apparaissait de loin par-dessus la cime des arbres. Brusquement, il s'arrêta et tendit l'oreille. À les feuilles sèches du sentier, bruissait sous un pas alourdi. Quelqu'un allait venir. Le Canadien se tapit derrière un gros tronc et retint son souffle. Dans la pénombre, il distingua la silhouette d'une femme chargée d'un lourd panier. Après une minute d'hésitation, il la suivit. Elle s'arrêta bientôt à la porte d'une petite construction qui devait être une maison de garde, posa son panier à terre et tira une clé de sa poche. Floridor put alors constater que le panier renfermait un pain, des bouteilles, tous les éléments d'un solide repas. La femme pénétra dans la maisonnette en refermant soigneusement la porte derrière elle. Elle ressortit 5 minutes plus tard. Le Canadien bondit sur elle et avant qu'elle eût le temps de jeter un cri, lui serra la gorge à l'étrangler. L'inconnu se débattait avec une force que Floridor n'eût pas soupçonnée. Mais elle n'était pas de force à lutter avec un tel colosse. Après une courte lutte, il réussit à la bâillonner avec son mouchoir de poche, puis il lui lia les pieds et les mains. Alors, il ramassa la clé qui était tombée à terre et pénétra à son tour dans la maisonnette. Là, un spectacle lamentable s'offrit à ses regards. Un vieillard aux traits creusés par la maladie, à la barbe inculte, était assis dans un fauteuil délabré, enveloppé dans une vieille pelisse de fourrure, en dépit de laquelle il semblait grelotter. À la vue du Canadien, le vieillard avait eu un geste épouvanté.
« Ne me tuez pas !» bégaya-t-il.
« Mais non, » dit Floridor, ému de pitié.
« Ne craignez rien. Vous êtes Monsieur Jack Randall ?»«
Hélas !» murmura le malheureux.
« Je suis venu pour vous délivrer. Vous ne me trompez pas, au moins. Ce n'est pas un nouveau piège qui m'est tendu. Si vraiment vous êtes venu dans de bonnes intentions, dites-moi où je suis. »«
Comment ?» répondit le Canadien stupéfait.
« Vous ne le savez donc pas. Vous êtes dans votre ranch du poteau. C'est que je suis venu ici sans savoir comment. Il y a plus d'un an qu'on ne m'a laissé sortir. Et si vous saviez ce que j'ai souffert, ils m'ont torturé, empoisonné lentement. Ici, je n'ai le droit de manger qu'après avoir signé, sans les lire, tous les papiers qu'on me présente. Hopkins est-il toujours là ? »
La réponse affirmative de Floridor amena un faible sourire sur son visage flétri.
« Hopkins m'est très dévoué, » fit-il. « Il ignorait que j'étais là, sûrement. »«
Alors, hâtons-nous de le rejoindre, car nous ne sommes pas en sûreté ici. Pouvez-vous marcher ?» Le vieillard voulut se lever, mais il était si faible qu'il retomba dans son fauteuil. « Ça ne fait rien, » dit Floridor sincèrement apitoyé. « Je vais vous porter. » Et il prit Jack Randall dans ses bras sans le moindre effort. Le malheureux d'une maigreur de squelette ne pesait pas plus qu'un enfant. En sortant de la maisonnette, le Canadien eut la surprise de ne plus retrouver sa prisonnière. Elle avait trouvé un moyen de se débarrasser de ses liens et de prendre la fuite. Benazi allait être prévenu. Il n'y avait pas un instant à perdre. Malgré son fardeau, Floridor regagna en courant la brèche par laquelle il s'était introduit dans le bois. Des aboiements et des coups de feu, qu'il entendait du côté de la maison d'habitation, lui firent encore hâter sa marche, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la grande salle où quelques-uns des hommes du ranch étaient demeurés à jouer aux cartes. Brisé par tant d'émotions, Jack Randall s'était évanoui. Il fut confié aux soins de Hopkins qui, réveillé en sursaut, venait de descendre et demeurait muet de stupeur et d'indignation en voyant dans quel pitoyable état se trouvait son vieux maître. Un noir, le même qui avait introduit Todd Morrow, avait assisté à cette scène, immobile, dans un coin de la salle. Quand il vit la tournure que prenaient les événements, il chercha à se faufiler du côté de la porte. Floridor, qui s'était aperçu de son manège, lui barra le passage. « Où vas-tu ? » lui demanda-t-il. « Et d'abord, que fais-tu là ? »
Monsieur Benazi m'avait envoyé chercher le Canadien qui est arrivé ce matin. J'attendais qu'il soit rentré.
Eh bien, le Canadien, c'est moi. T'as bien fait de rester. J'ai des questions à te poser. Est-il venu quelqu'un voir ton patron cet après-midi?
Non.
Tu mens, reprit Floridor en employant le noir par une de ses larges oreilles. Allons, parle ou je prends mon brownie.
Il est venu un médecin, balbutia le noir consterné.
Et il est reparti?
Tu ne réponds pas?
Floridor avait tiré de sa poche un Browning de gros calibre.
« Il n'est pas reparti !» articula le noir.
« Comme conduire immédiatement où il est. Sans cela, gare à ta vilaine peau !»
Sur l'ordre de Hopkins, quatre solides cowboys se joignirent au Canadien qui tenait toujours son noir par l'oreille, et la petite troupe, coupant au plus court par le bois, se dirigea vers l'habitation. Ils ne rencontrèrent personne dans le bois, personne dans la maison dont les portes étaient grandes ouvertes. L'auto n'était plus sous le hangar, tout annonçait une fuite précipitée. Le noir indiqua sans se faire prier la chambre où Todd Marvel était prisonnier et donna la clé que ouvrait la porte de fer. Ses sauveurs durent réveiller le milliardaire. Étendu sur le divan-lit, il dormait d'un profond sommeil.